Odyssée, écrite par Martin Winkler, remise à jour, lue et enregistrée pour Radio Vassivière.
Le cerveau a-t-il un sexe? Cette question va gêner aux entournures un certain nombre d'auditeurs. Mais ce n'est pas parce qu'une question est gênante qu'il faut éviter de la poser. Personnellement, je pense même le contraire. Les recherches neuropsychologiques ont fait apparaître que les différences nettes entre hommes et femmes, non seulement en ce qui concerne le comportement, mais aussi pour les tâches intellectuelles spécifiques, s'expliquent par des différences anatomiques du cerveau. Ce que l'on observe spontanément dans une cour de maternelle, à savoir que les garçons préfèrent plutôt courir, crier et jouer à la guerre, tandis que les filles préfèrent plutôt s'asseoir, parler et dessiner, se retrouve en effet confirmé chez l'adulte par des tests de fonction intellectuelle. Les hommes ont en général plus de facilité que les femmes avec des tests mathématiques, tandis que les femmes ont plus de facilité à effectuer des tests verbaux. Les hommes sont plus à l'aise avec les tests d'orientation, les femmes plutôt plus à l'aise avec les tâches manuelles fines, etc. Ces observations, bien sûr, ne font que décrire une tendance, exactement comme pour la taille. Même si les hommes sont en général plus grands que les femmes, on rencontre des individus de toutes les tailles dans les deux sexes. Comme les aptitudes intellectuelles varient entre les deux sexes, mais aussi entre les individus du même sexe, et entre deux individus ayant vécu dans le même milieu socio-économique, on peut supposer que la génétique et l'environnement n'expliquent pas, à eux seuls, les différences d'aptitudes intellectuelles. Alors, à quoi sont-elles dues ? Eh bien, au cours des 20 dernières années, un grand nombre de chercheurs ont montré que l'organisation du cerveau est modelée avant la naissance par l'exposition précoce de l'embryon aux hormones sexuelles qu'il fabrique lui-même. Au début du développement de l'individu, pendant les 3 premiers mois, tous les embryons humains, masculins et féminins, ont une forme identique. Si le fœtus est génétiquement féminin, c'est-à-dire qu'il possède 2 chromosomes X, ses glandes sexuelles seront des ovaires. S'il est génétiquement masculin, c'est-à-dire s'il a un chromosome X et un chromosome Y, ses glandes sexuelles seront des testicules. Les hormones femelles fabriquées par l'ovaire donnent au fœtus des caractéristiques physiques et à son cerveau des capacités intellectuelles féminines. Les hormones mâles fabriquées par les testicules donnent au fœtus les caractéristiques physiques masculines et à son cerveau des aptitudes intellectuelles de type masculin. Pendant la formation de l'individu, la quantité d'hormones présente des fluctuations et modèle le cerveau de manière variable, ce qui explique que certains garçons sont très bons dessinateurs et que certaines filles sont très fortes en maths. Mais il semble de plus que ces variations d'imprégnation hormonale expliquent aussi les variations dans l'orientation sexuelle des individus. De nombreuses recherches donnent ainsi à penser que l'orientation sexuelle, c'est-à-dire le fait que le désir sexuel d'un individu se porte vers le sexe opposé ou vers le même sexe, ne serait ni génétique ni éducative, mais conditionnée elle aussi par l'imprégnation hormonale du cerveau pendant le développement intra-utérine. Cette explication très sérieuse et très scientifique de l'origine des orientations sexuelles de l'être humain a évidemment le mérite d'intégrer l'homosexualité en tant que variante naturelle de la sexualité humaine, de même que le fait d'être gaucher ou droitier, d'avoir les yeux bleus ou marrons, d'avoir la peau noire ou blanche, d'être un homme ou une femme, sont des variantes équivalentes de notre humanité.
C'était Odyssée, écrite par Martin Winkler, remise à jour, lue et enregistrée pour Radio Vassivière.